Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Des petits jardins typiques à l'anglaise, et pour cause, de petits chemins tortueux, beaucoup de fougères, de la verdure, de l'humidité, des panoramas magnifiques, des maisons très géorgiennes et des parcs très victoriens. Admirons le Devon d'Agatha Christie, profitons de cette belle nature. Ah, les haies derrière lesquelles on se cache, derrière lesquelles on écoute de vraies ou fausses confidences, et ayant donc l'esprit libre pour le nourrir de meurtre. Par roman interposé, bien sûr. Agatha contre Christie, une murder party de campagne, La face cachée du Devon d'Agatha, par Martin Kenem. Première diffusion sur France Culture, le 23 août 2013.
Ayant entendu le léger clapotis qui préludait à l'arrivée du bac, il s'engagea sur la rampe de la plateforme et monta à bord, tandis que le vieux passeur maintenait l'embarcation à l'aide d'une gaffe. Assez étrangement, l'homme et le bac semblaient ne faire qu'un bloc. Une brise légère s'élevait de la mer. « Plutôt frais ce soir, » dit le passeur.
Brett Rousson, spécialiste du Devon d'Agatha Christie.
Nous arrivons vers le quai du ferry de Greenway, sur la rivière Dart. Ce chemin était très emprunté par les navigateurs tels Humphrey Gilbert, Walter Raleigh. Ils ont appris à voguer ici avant de partir à la conquête du Nouveau Monde pour ramener des produits exotiques comme le tabac, la pomme de terre. Dans les années 1500, cet endroit était le Cap Canaveral d'aujourd'hui. Les explorateurs partaient d'ici et ils revenaient toujours avec des choses incroyables. La maison est construite sur un formidable emplacement. Elle est située sur l'une des boucles de la rivière Dart. Elle est légèrement surélevée et elle offre une vue magnifique sur Dartmouth. Cet emplacement est celui qu'Agatha Christie a choisi pour le début de son ouvrage « Témoin indésirable ». C'est là qu'Arthur Calgary revient après une mission en Antarctique. Il souffre d'une légère amnésie. L'amnésie est un thème commun dans les intrigues d'Agatha Christie. L'explorateur ne se souvient que de quelques informations à propos d'un crime qui révéleront l'innocence d'une personne emprisonnée depuis 2 ans. Il part à la rencontre des familles pour expliquer ce dont il se souvient. Et le jeune homme peut enfin être délivré. Je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais le prisonnier peut enfin être libéré, ce qui entraîne d'autres problèmes car un membre de la famille est tué, et c'est ainsi que l'intrigue continue.
Le bac avait atteint l'autre rive. Le Rubicon était franchi. Déjà, le passeur interpellait son client.
« Ce sera 4 pence, monsieur. Ou peut-être désirez-vous un ticket de retour ?»«
Non, » répondit Calgary. « Aucun retour. » À peine eut-il prononcé ces 2 mots qu'il en ressentit la lourde signification.
« Connaissez-vous une maison appelée Sunny Point ?»
Voilée jusqu'à ce moment, la curiosité du passeur s'accentua. Ses yeux brillaient lorsqu'il répondit
« Mais oui, la villa se trouve sur la hauteur et vous pouvez déjà l'apercevoir à travers les arbres. Prenez le chemin qui, à droite, conduit au sommet de la colline. C'est la dernière maison. »
Une murder party de campagne. Un documentaire de Martin Kenéen et Julie Béressy.
Vous êtes un peu effrayé en débarquant sur le quai de Greenway ?
Just a little bit, but I mean...
Juste un peu, mais pas trop. Il y a 2 livres très célèbres qui se déroulent ici à Greenway, dont 5 petits cochons et Poirot joue le jeu. Agatha Christie voit la capacité de tuer n'importe où. Elle peut la situer au Moyen-Orient, comme dans le Devon. Le lieu de l'intrigue n'a jamais été un problème pour elle.
La campagne anglaise est d'une banalité, pour l'Europe du Nord-Ouest en tout cas, considérable, et par là même elle est quelque peu inquiétante.
Michel Pastoureau, historien.
Donc pour servir de cadre à des crimes, ce sont des endroits rêvés, surtout qu'elle est banale, mais elle est diverse, cette campagne anglaise. Et puis il y a cette pluie qui est continuelle, ou presque, la terre, les chemins, les routes qui ne sont pas toutes goudronnées, bref, il y a une dominante en gris vert, en gris beige, dans la gamme de tous les bruns, etc. Et dès qu'il y a un écart d'une couleur un peu vive, soit du rouge, soit du jaune, évidemment, c'est soit un indice, soit une piste, ou une fausse piste, une pièce de vêtement.
In her notebooks, she doesn't really discuss very much about the settings and backgrounds.
John Curran, auteur des carnets secrets d'Agatha Christie.
Dans les carnets d'Agatha Christie, elle ne discute pas vraiment des décors et du contexte. On l'a accusée il y a de nombreuses années de toujours situer ses romans dans des maisons de campagne. Pour commencer, c'est faux. Mais elle précise aussi qu'elle doit situer ses livres là où les gens vivent. C'est juste réaliste. Mais aussi, de nombreux décors venaient de son expérience personnelle. Par exemple, elle a été en croisière sur le Nil. Elle était une grande voyageuse. Elle a passé beaucoup de mois et d'années sur des sites archéologiques. Donc, Meurtre en Mésopotamie, c'est écrit sur son vécu. Et la maison où elle vivait, en fait, elle en avait deux. Toutes les deux étaient des maisons à la campagne. Des grandes maisons avec des domestiques, des jardiniers et où elle recevait. D'où le contexte d'autres livres. St. Mary Mead, ça peut aussi être vu comme le village où elle vécut un temps dans l'Oxfordshire. Mais le décor, dans une large mesure, n'était pas vraiment important. J'ai toujours maintenu qu'alors que Mort sur le Nil est un roman très intelligent avec un splendide décor de l'Égypte et du Nil, il aurait aussi bien pu s'appeler Tragédie sur la Tamise ou Tragédie sur la Seine, parce qu'il n'y a rien qui ait trait à l'intrigue qui se rapporte à l'Égypte.
Le Devon, c'est une belle campagne, c'est un pays de bocage avec des collines ou des collinettes, des ruisseaux, des petits bois, des prés, des champs, des haies surtout. La haie joue un rôle important dans les romans d'Agatha Christie. On est espionné derrière la haie, on trouve des cadavres dans les haies et les fossés. Et puis les fleurs aussi, qui sont relativement bien présentes. On sent qu'Agatha Christie aimait les fleurs. Il y a des jardins avec non seulement des légumes, mais des fleurs. Et on échange des pieds ou des graines entre personnes de la campagne. Tout cela est parfaitement mis en scène avec une très grande simplicité. Et ça contribue à donner à ces romans un certain charme, surtout un charme un peu suranné, puisque c'est un monde que nous avons perdu, non seulement nous, Français, mais également nos amis britanniques. Hein. C'est une campagne qui a pratiquement disparu aujourd'hui. C'est une campagne qui n'est pas complètement campagne, en ce sens que la ville n'est jamais loin. On peut aller à Londres dans la journée et en revenir, hein, qu'on soit dans le Devon ou dans d'autres comtés d'Angleterre, le Berkshire par exemple, qui joue un rôle important dans les romans d'Agatha. On va à Londres, on en revient, les horaires des trains jouent un rôle parfois dans la solution de l'énigme. Bref, c'est une campagne plus ou moins civilisée, peut-être encore plus inquiétante qu'une campagne véritable, parce que des gens viennent de la ville, s'y installent pour le week-end ou pour se reposer. Il y a un mélange de citadins et de véritables ruraux. Il y a toutes les classes et catégories sociales. Il y a des lieux qui sont des points focaux, pourrait-on dire, comme l'auberge. J'ai une passion, moi, pour une auberge qui s'appelle le Sanglier Bleu, qui revient trois fois dans les romans d'Agatha. C'est une enseigne, bien sûr, mais pour l'historien des couleurs et des animaux que je suis, c'est très séduisant, un sanglier bleu.
Et alors, il y a tous ces arbres couverts de lierre, il y a ces murs anciens avec de la mousse qui les recouvre, toutes ces fougères. Et pourtant, on trouve très peu de descriptions des paysages dans l'œuvre d'Agatha Christie. Pourquoi ?
C'est intéressant. Ses livres sont construits d'une façon très minimaliste.
She only included in her books things that were essential to the plot, to the story.
Elle y décrit seulement les choses qui sont centrales pour l'intrigue. Elle enlève tout ce qui est superficiel à l'histoire. Les personnages ne sont jamais vraiment décrits, ni leurs vêtements, ni les paysages. Si elle fait allusion à un paysage, c'est qu'il sera très important pour résoudre le mystère. Si elle parle de la neige à Dartmoor et du sol glissant, ah, vous savez alors que cela va devenir essentiel au dénouement de l'histoire.
you know that at some point that is going to become critical to the understanding of the dénouement, the solution to the mystery.
Quand on regarde entre les branches entrelacées des arbres qu'on a sous les yeux et qu'on regarde la rivière Dart, il y a au milieu de la rivière un rocher qui a quelque chose d'inquiétant.
Yes, that's called the
Oui, nous appelons ça le Scald Stone. C'est un rocher que nous allons apercevoir dès maintenant derrière les feuilles. Lorsque la marée est haute, il est recouvert d'eau. Il y a cette légende qui raconte que les gentlemen de Dithisham attachaient leurs femmes soupçonnées d'infidélité au rocher lorsque la marée était basse. Au fur et à mesure que l'eau montait, les femmes étaient de plus en plus effrayées. Et elle pensait mourir, mais tout était calculé pour qu'elle ne se noie pas. Elles avaient eu assez peur pour ne pas recommencer à l'avenir.
Là, vous nous faites bifurquer sur un petit chemin
qui ne mène nulle part. C'est comme un labyrinthe.
Nous sommes perdus ?
Non, je ne suis pas perdu.
Nous ne sommes pas perdus, mais David Suchet, l'homme qui joue dans les téléfilms inspirés des intrigues d'Agatha Christie, est venu ici. Et il s'est perdu, lui. C'est très difficile de retrouver son chemin. Nous allons prendre ce chemin.
Le jardin anglais n'est pas le jardin à la française, donc il y a des parties bien ordonnées, d'autres vallonnées, d'autres avec des petits bois. Il y a la zone des bosquets, les zones des buissons, ça monte et ça descend. Bref, on peut se cacher, on peut méditer, on peut observer. On ne peut pas faire cela dans le parc de Versailles. Donc c'est un autre jardin, hein, qu'il soit grand ou petit. Et dans les petits jardins, chez les gens très modestes, il y a la haie du potager ou la corde où sèche le linge qui permet de se dissimuler, d'observer. Ça joue un rôle important dans ce type de littérature. Et je trouve que c'est extrêmement à la fois séduisant et inquiétant pour déboussoler le lecteur, c'est parfait.
Il y a l'odeur des algues qui nous monte jusqu'aux narines. Alors si on est mal intentionné, on peut imaginer voir surnager un cadavre peut-être, mais on peut aussi imaginer croiser Dame Agatha Christie en maillot de bain.
Oui, c'est fort probable. Elle adorait nager. C'était l'une de ses grandes passions.
Alors, il y a le côté sympathique de l'élément aquatique. Et puis, on est quand même à proximité, maintenant qu'on a tourné dans ce petit chemin, de la fameuse Boat House de Sinistre Mémoire.
On se réfère ici au livre « Poirot joue le jeu ». Ce livre met en scène une fête qui se déroule en plein milieu de l'été. Des activités sont organisées pour les invités et une nourriture abondante est disposée sur les tables. Mais l'activité principale est une intrigue criminelle qui est organisée par Ariadne Oliver. Les familles de la région sont venues à Greenway pour l'après-midi. Les enfants du coin cherchent les indices. Ils ont déjà trouvé le premier sur le terrain de tennis, puis d'autres dans le jardin, avant de rejoindre tous ensemble la maison. Mais malheureusement, la fiction devient réelle. Marlène Tucker, qui devait jouer la victime allongée sur le sol, est retrouvée morte par Hercule Poirot. L'événement prend alors une tournure dramatique. Elle en savait trop. C'était le problème.
Une rampe escarpée menait à la porte de la remise qui était construite sur la rivière, comportait un petit wharf et au-dessous un espace où logeaient les embarcations. Mrs. Oliver prit une clé dans sa poche et ouvrit. « Nous sommes venus vous distraire, Marlène », annonça-t-elle gaiement. Elle éprouvait quelques remords car la fillette jouait son rôle en conscience, étendue qu'elle était sous la fenêtre. Elle ne répondit pas, ne bougea pas davantage, et le vent qui soufflait grâce à la fenêtre ouverte agita une pile de journaux illustrés posés sur la table. « Parfait !» reprit Mrs. Oliver avec impatience. « Il n'y a que M. Poirot et moi. Personne n'a encore déchiffré les indices. »
Son compagnon fronçait les sourcils. Il l'écarta doucement, se pencha sur le corps, étouffa un cri, regarda Mrs. Oliver et dit « Ce que vous aviez prévu est arrivé. »«
Quoi ? » répondit-elle, les yeux exorbités. « Ce n'est pas possible. Elle n'est pas morte. »«
Si. Et il n'y a pas longtemps. »
L'eau est en effet très présente dans les écrits d'Agatha Christie. Le célèbre roman « L'heure zéro » se déroule à côté de la rivière East Head. Sans dévoiler l'intrigue, le fait de nager et de traverser la rivière est très important dans l'histoire. Dans Témoin indésirable et Poirot joue le jeu, des corps sont retrouvés dans les rivières. Elle a également une passion pour les îles, avec Berg Island. Dans les vacances d'Hercule Poirot, l'action se déroule également sur une île. C'est très intéressant car les observations d'Hercule Poirot au début du roman portent sur l'attitude des gens en train de se faire bronzer et de se baigner. Elle est très observatrice. L'un de ses plus célèbres romans, Dix Petits Nègres, est basé à Berg Island. Elle adorait l'emplacement de cette île, car tous les personnages se trouvaient au même endroit, sans pouvoir s'échapper. Ils étaient coincés, et à cause de la mer agitée, personne ne pouvait venir les sauver. C'est un espace confiné et elle en raffolait. Elle peut vraiment y faire vivre son intrigue et construire un vrai casse-tête pour ses lecteurs.
Parvenus au sommet d'une colline escarpée, ils en redescendirent par un chemin en lacet menant à Stickelhaven, minuscule agglomération de cottages avec deux ou trois bateaux de pêche tirés à sec sur la plage. Ce fut alors qu'ils eurent leur premier aperçu de l'île du Nègre. Illuminée par le soleil couchant, elle émergeait des flots, au sud. « Elle est bien loin, » fit observer Vera, surprise. Elle se l'était représentée différemment. Proche du rivage et couronnée d'une somptueuse maison blanche. Hélas, il n'y avait aucune maison en vue, rien qu'une masse rocheuse plus ou moins à pic qui se profilait sur le ciel en évoquant vaguement une gigantesque tête de nègre. Le spectacle avait quelque chose de sinistre. Vera réprima un frisson.
L'insularité joue en effet un rôle important dans les romans d'Agatha Christie, non seulement parce que la Grande-Bretagne est une île, mais aussi parce que dans cette île, il y a d'autres îles et ça contribue à créer le terme du huis clos. Hein. La chambre close ou l'île, c'est à peu près la même chose. Et l'assassin ne peut pas venir de l'extérieur. Guy Petit Nègre, évidemment, de ce point de vue-là, est un chef-d'œuvre. Mais il y en a d'autres, hein, des histoires où on prend le bateau pour rejoindre un rocher ou une île, on revient au bord de mer, car cette campagne, c'est aussi une campagne du bord de mer, mais un bord de mer sans building, un bord de mer d'avant la dernière guerre mondiale, et qui lui aussi a son charme d'ailleurs, et ces moments inquiétants. Il y a des rochers, il y a les marées qui jouent un rôle important, il y a les bateaux qui peuvent traverser à certains moments et pas à d'autres, donc ça contribue aussi à la construction de l'énigme. Bref, tout cela est très bien maîtrisé, évoqué avec peu de mots, peu de phrases, mais ça suffit pour le lecteur pour être transposé dans un univers qui est le monde rural de l'Angleterre du XXe siècle.
Il y a une autre scène de meurtre ici. On appelle ça la batterie. Ces petites fortifications ont été construites pour empêcher les Français de venir durant les guerres successives. Vous pouvez toujours voir les deux canons ici. Il y a une photo très célèbre dans l'ancienne biographie d'Agatha Christie, où elle et Max sont assis sur ce canon. Dans Les Cinq Petits Cochons, le personnage Amyas Crail s'installe pour peindre ici. Il boit une bière empoisonnée et il meurt subitement. Et l'intrigue commence. Qui est le tueur ?
Monsieur Creil s'était installé pour peindre dans un jardinet clos appelé Jardin de la Batterie, en raison de sa position dominante au-dessus de la mer et d'un canon miniature placé sur un petit rempart. Il se trouvait à environ 4 minutes à pied de la maison. Monsieur Creil n'était pas rentré déjeuner parce qu'il désirait profiter de certains effets de lumière sur la pierre et que plus tard le soleil aurait été trop bas. Il est donc resté seul dans le jardin de la batterie, devant son chevalet. Cela n'avait, paraît-il, rien d'inhabituel. Monsieur Creil ne se préoccupait guère des heures des repas. On lui faisait parfois porter un sandwich, mais il préférait la plupart du temps qu'on ne le dérange pas. À la fin du repas, le café fut servi sur la terrasse. Après avoir bu le sien, Mrs. Creil dit qu'elle descendait voir si tout allait bien du côté d'Amias. Miss Cecilia Williams, la gouvernante, se leva pour l'accompagner. Elle voulait retrouver un pull que la demi-sœur de Caroline, la petite Angela Warren, dont elle avait la charge, avait égaré et aurait pu laisser en bas à la plage. Les voilà toutes deux parties. Le sentier descendait, traversait un petit bois et débouchait directement sur la porte de la batterie. On pouvait soit entrer dans le jardin, soit continuer jusqu'à la plage. Miss Williams poursuit son chemin tandis que Mrs. Creil entre dans la batterie. Presque aussitôt, cependant, elle entend Mrs. Creil crier. Elle fait demi-tour, se précipite. Mr. Creil était affaissé sur son siège, mort.
Et alors, quand on passe par ce chemin forestier, un brin sauvage, on monte et on s'approche de la maison, et à mesure qu'on s'approche de la maison, il y a le jardin qui prend le dessus, il y a la civilisation qui reprend ses droits. C'est un mélange de nature avec des rochers moussus et puis une petite fontaine, comme un contraste comme ça très fort entre un côté jardin public et un côté préhistorique de jungle.
Oui, ce n'est pas un jardin à la française, c'est un jardin typiquement anglais.
Nous aimons lorsque c'est sauvage, avec beaucoup de plantes, des petits chemins tortueux.
Lorsque vous passez le coin, vous avez une vue complètement différente. Voici un parc à l'esthétique victorienne. On appelle ça une plantation de fougères. Tout est rempli de fougères. C'est très vert et humide. Les Victoriens en raffolaient.
Le jardin, c'est un lieu à la fois divers, mystérieux, où il se passe toutes sortes de choses. Il suffit d'observer un petit morceau de terrain, on voit des êtres vivants, on voit de l'eau, de la terre, de l'herbe, faire un gros plan sur un massif fleuri, etc. Tout cela joue un rôle dans les romans d'Agatha. Dans le jardin, on se dissimule, on entre par une porte, on rentre par une autre. Il y a plusieurs histoires avec des maisons à multiples portes et fenêtres. Mais il y a aussi donc celle qui donne sur le jardin. On passe par derrière, on déplace une échelle, on pousse la brouette, on se cache dans la haie. Ça revient plusieurs fois et ça contribue à créer un univers qui est à la fois inquiétant, poétique, onirique même. En tout cas, moi, je l'ai bien en tête à lire Agatha Christie.
Délicieux monde, protégé, pourtant captivant que celui de l'enfance. L'élément le plus important peut-être dans le mien était le jardin. Jardin qui devait prendre pour moi une place de plus en plus grande au fil des années. J'allais en connaître le moindre arbrisseau, attacher une signification spéciale à chacun. Depuis le début, il se divisait en trois parties dans mon esprit. Il y avait le potager, entouré d'un haut mur adossé à la route. Sans grand intérêt pour moi, si ce n'est par les framboises et les pommes qu'il produisait et dont j'étais grande consommatrice. C'était le potager, mais rien d'autre. Il ne laissait aucune place à la magie. Venait ensuite le jardin lui-même, longue étendue de pelouses qui descendait en pente douce et parsemée de certaines entités intéressantes. Le chêne vert, le cèdre, le séquoia. Qu'il était grand. Deux sapins associés pour une raison maintenant obscure à mon frère et à ma sœur. Dans l'arbre de Manti, on pouvait, en faisant attention, grimper, c'est-à-dire se hisser à trois branches de hauteur. Dans celui de Madge, après avoir précautionneusement écarté le feuillage, on trouvait un siège, une branche à la courbure confortable sur laquelle il était loisible de s'asseoir et d'observer le monde extérieur sans être vu. Suivez ce que j'appelais l'arbre à térébenthine qui exudait une gomme collante et odoriférante que je recueillais consciencieusement dans des feuilles pour en faire un baume très précieux. Troisièmement, le petit bois, qui dresse toujours sa masse indistincte. Dans mon imagination, il paraissait aussi grand que la New Forest. Surtout constitué de frênes, il était percé d'une allée qui serpentait à l'intérieur. On y éprouvait les mêmes sensations que dans une vraie forêt. Mystère, peur, délices secrets, inaccessibilité, distance.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la voix d'Agatha Christie, mais elle avait une façon de s'exprimer très aristocratique. Elle parlait comme la reine Elisabeth II. Elle partageait d'ailleurs avec la reine Elisabeth II une passion commune pour les petits chiens. C'est l'endroit où ont été enterrés les chiens de son enfance. C'est très touchant. C'est un petit cimetière pour ses chiens. Peu de visiteurs connaissent ce lieu. Nous ne sommes pas censés nous balader ici. Nous avons Goli Skampopa, mort en 1974. C'est des prénoms très étranges. C'est des noms très exotiques.
Le chien, dans l'Angleterre du XXe siècle, fait partie de la vie quotidienne, fait partie de la famille. Il est très souvent présent, accompagnant les humains ou observant les humains. Le bestiaire d'Agatha Christie n'est pas extrêmement développé, mais le chien, en effet, est l'animal le plus présent. Il est parfois témoin, il aurait des choses à dire, mais il ne peut pas les dire. C'est intéressant, c'est la méfiance de Poirot envers les chiens. Lui, il est de la ville, il est à la campagne dans sa tenue de ville, il se méfie à la fois de la pluie, de la boue, et des chiens, mais en même temps, il sent parfois que le chien pourrait donner la clé de l'énigme. Ce contraste entre le détective belge et le chien de la campagne ou le chien de maître est parfois très bien souligné. Ces chiens, Agatha Christie les a observés un peu partout autour d'elle, aussi bien dans la bonne société que dans des classes plus modestes. Il y a beaucoup plus de chiens en Angleterre qu'en France dans les années 20, dans les années 30, peut-être encore dans les années 50. On a même eu plusieurs souverains britanniques qui avaient un chien favori qui les accompagnait partout, notamment le fils de la reine Victoria était connu pour Édouard était connu pour son chien dont j'ai oublié le nom mais qui a servi de modèle à Milou. Hergé a recopié le chien du prince de Galles devenu roi d'Angleterre qui a survécu à la mort de son maître et qui le jour des funérailles était en tête, tout seul en tête du cortège jusqu'au cimetière.
D'ici, vous avez un panorama magnifique de la maison. Vous voyez, c'est très géorgien. C'est coupé comme un cube, de façon géométrique. Il y avait une partie supérieure, mais elle l'a coupée car elle aimait les surfaces géométriques, les lignes simples. Un peu comme dans ses livres, où elle enlevait tout le superflu. Elle ne gardait que l'intrigue principale. C'est une très belle maison.
Simon Brett, écrivain et président du Detection Club.
L'idée de propriété est en soi très importante pour Agatha Christie. Cela implique de l'argent et la propriété est souvent l'un des motifs des intrigues. Les gens peuvent commettre des meurtres juste pour récupérer ou hériter d'une propriété. C'est l'idée d'une maison de campagne, un endroit parfait situé au sein d'une communauté très fermée. Le nombre des personnes est limité, ils ne se connaissent pas très bien, ou ils se connaissent à l'inverse mieux qu'on ne pourrait le penser. C'est un cadre idéal pour construire l'intrigue d'un meurtre. Pour revenir à la place de la maison, je pense qu'elle est très importante. Elle le fut pour Agatha Christie, même si elle avait l'habitude de voyager. Les maisons dans lesquelles elle a vécu ont été très importantes à ses yeux, et en particulier celle de son enfance, où elle y a connu la mort de son père alors qu'elle était relativement jeune. Elle a très vite compris que la propriété était une sorte de sécurité d'un point de vue financier et émotionnel.
Si vous regardez ici toutes ces chaises où elle avait l'habitude de s'asseoir, elles ont été placées en face de la rivière. Ce qui est drôle, c'est qu'elle aurait pu simplement s'asseoir en contemplant ce magnifique paysage. Mais tout ce temps, elle pensait à des gens assassinés, empoisonnés. Comment quelqu'un peut tuer quelqu'un d'autre sans être découvert? Cette femme est assise ici, dans ce magnifique jardin. Et au même moment, son esprit est rempli de meurtres.
Pour la création romanesque, un cadre de vie relativement banal, calme, ça peut être très créateur. Vladimir Nabokov s'est beaucoup exprimé là-dessus quand il expliquait que, à la fin de sa vie, lorsqu'il résidait à Montreux, il avait absolument besoin de ce cadre du bout du lac Léman, qui est à la fois enchanteur, paisible, entouré de milliardaires parfois, pour créer des histoires les plus extravagantes possibles. Ce ne serait pas possible dans un lieu qui serait lui-même extravagant. Je pense que chez Agatha, il y a un petit peu de cela. Le côté paisible de la campagne convient très bien pour créer des histoires horribles qui se passent à la campagne.
À Greenway, la maison d'Agatha Christie.
I will show you perhaps the one of the most famous things that is in the house.
Jean, guide à Greenway.
Je vais vous montrer l'un des objets les plus célèbres de la maison. On l'appelle le bahut de Bagdad et il figure dans la nouvelle Le mystère du bahut espagnol. C'est très beau. Dans l'histoire, le corps d'une victime y a été trouvé.
Peut-on vérifier ?
Non, c'est notre petit secret. Le bahut est en bois, avec de sublimes ornements en cuivre, de nombreux médaillons incrustés et des décorations du Moyen-Orient, également en cuivre. Il y a une énorme serrure qui s'ouvre et qui se ferme. Vous pouvez voir en bas du bahut plusieurs tiroirs que j'ai nettoyés moi-même. Ils ont été ramenés par Agatha et Max lorsqu'ils travaillaient sur une mission archéologique en Irak. Ils ont été transportés par bateau et nous avons trouvé beaucoup de sable dans les trous des serrures. Nous aurions adoré savoir s'ils venaient réellement de Bagdad, mais nous ne pouvions pas.
La macabre découverte avait été faite le lendemain matin par le valet de chambre du Major Rich, William Burgess. Ce dernier ne logeait pas sur place. Il était arrivé tôt afin de remettre le salon en ordre avant de réveiller son maître et de lui apporter son thé du matin. C'est pendant qu'il effectuait ce rangement que Burgess avait été intrigué par une grosse tache qui décolorait le tapis clair sur lequel était posté le bahut espagnol. Quelque chose semblait avoir suinté de l'intérieur, et le valet avait immédiatement soulevé le couvercle pour regarder à l'intérieur. Il avait été horrifié d'y trouver le corps de Mr. Clayton, le cou lardé de coups de couteau. Obéissant à son premier réflexe, Burgess s'était précipité dans la rue et avait couru chercher le policier le plus proche.
Ce sont ses carnets. La personne qui les a utilisés pour écrire son livre a mis du temps à les décrypter, car ils étaient difficiles à lire. Ils ont tous été rassemblés. Ils contiennent des croquis et des notes à propos de différentes choses.
Even though I've studied the notebooks for years,
même si j'ai étudié les carnets pendant des années, il n'y a personne qui se rappelle si Agatha Christie utilisait ses carnets, comment elle passait des carnets aux manuscrits. Apparemment, dans certains cas, il s'agissait juste d'une idée. Par exemple, dans Drame en trois actes, le mobile du meurtre, c'est la force motrice du livre. Ce mobile apparaît dans une phrase dans un carnet très très tôt dans les années 30, quelques années avant qu'elle ne finisse le livre. La L'aspect intéressant des carnets, alors que les livres d'Agatha Christie sont très organisés et très bien assemblés quand vous lisez les derniers chapitres, la création effective semble être chaotique au départ. Elle disait qu'elle avait à l'esprit ce qui allait se passer. Il serait très difficile de reconstruire l'un de ses livres juste à partir des seules notes. Par exemple, le livre « Meurtre aux champagnes » de 1945, bien les notes de ce livre sont éparpillées sur 12 carnets. Ce que je pense qui se passait, c'est qu'Agatha Christie avait un carnet dans son sac à main, un carnet à côté de son lit, un carnet dans sa cuisine, et quand elle avait une idée, elle attrapait un carnet, elle écrivait son idée, et puis elle continuait ce qu'elle faisait, prendre son dîner ou écrire une lettre. Et elle retournait certainement dans ses carnets, mais quand elle ouvrait un carnet, elle n'écrivait pas forcément là où elle avait arrêté le jour précédent. Donc la méthode de création semble être totalement chaotique. Mais elle disait qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait.
Dans les carnets qu'on a conservés, on voit bien comment les projets, en fait, sont faits pour la longue durée. Elle note un certain nombre d'idées, elle les reprend 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, elle en fait un roman 30 ans plus tard. Il y a quand même un travail construit dans la durée, plus ou moins. Elle pense à long terme, Agatha. Elle n'a été anoblie qu'à la fin, à l'extrême fin de sa vie, si je me souviens bien. Donc elle n'est pas aristocrate, mais elle a en effet une espèce de liberté d'aristocrate qu'on avait dans certaines familles bourgeoises, disons, dans cette Angleterre du XXe siècle. Et le fait qu'elle n'ait pas fait d'études ou peu d'études, peut-être, ouvre les voies à une liberté de la créativité. Si je me souviens bien, elle avait quand même un demi-diplôme de pharmacienne, ce qui explique peut-être sa connaissance des poisons, des plantes, de la botanique, et ce que l'on peut en faire, notamment du point de vue négatif. Peut-être aussi dans ces familles où les jeunes filles, dans les années 1900-1910, dessinaient, écrivaient des vers, observaient, passaient beaucoup de temps à attendre, l'esprit travaille, les chimères viennent, et elle a dû, jeune, imaginer pas mal d'histoires qu'elle a dû reprendre plus tard.
Ce sont les toilettes d'Agatha Christie. Elle adorait tellement ces toilettes qu'elle a décidé de faire construire un meuble identique dans sa nouvelle maison en Irak.
Avec une seule chaise percée qui est en fait comme un grand coffre en bois percé donc en son centre avec un orifice en céramique. Et ce serait donc ça, la boîte à tonnerre chère à Agatha Christie qui pouvait sans doute y passer un certain moment et en tout cas s'y réfugier bien à l'aise et même y inviter des amis.
Ce sont ici les sonnettes originales qui ont été reliées dans chaque pièce par un système de poulies. Vous pouvez voir qu'elles sont encore là et les petites étiquettes indiquaient les différents numéros des pièces. Vous pouvez apercevoir tous les câbles électriques qui ont été installés justement un peu plus tard pour les sonnettes. Voici le salon. Ils venaient ici après le souper pour se détendre. Elle avait pour habitude de jouer du piano. Elle n'a jamais écrit de roman ici, mais elle les lisait dans cette pièce à ses convives. Max, son second mari, avait pour habitude de piquer du nez au milieu des histoires, mais il devinait toujours le nom de l'assassin. Il connaissait tellement bien Agatha qu'il était capable de débusquer le coupable. Elle détestait le fait que les hommes partent après dîner. Ils allaient souvent au billard et fumaient des cigares en aparté. Les femmes devaient alors rester de leur côté. Agatha Christie aimait au contraire que tout le monde soit rassemblé. Ses convives faisaient des devinettes et elle jouait du piano. Elle aimait que tout le monde soit réuni à la fin du repas.
Agatha
Vous serez heureux de savoir qu'Agatha est venue à Paris pour suivre des cours au conservatoire afin de devenir musicienne. C'était une excellente pianiste, très classique, mais elle avait peur de se produire sur scène. Elle a toujours été très secrète et timide. Et elle n'a ainsi joué que chez elle, pour sa famille. Elle a d'ailleurs écrit une partition de musique. Malheureusement, elle ne l'a pas aimée et elle a décidé d'arrêter de composer.
Do you play?
Là, nous sommes dans le train à vapeur qui relie Greenway à Paignton, non loin de Torquay. Les trains, et singulièrement ce train-là, occupent une place d'importance dans l'œuvre d'Agatha Christie.
Les trains en général, elle adorait les trains. Dans son autobiographie, elle fait une liste de ses choses préférées. Et elle cite les pommes, la crème, les mots croisés. Et les trains sont toujours en tête. Elle se souvient du temps où les trains avaient des locomotives à vapeur. Ils étaient presque devenus comme ses amis durant ces longs voyages. Ce train en particulier est celui que Poirot prenait quand il partait de Londres pour aller à Greenway. Plus spécifiquement pour se rendre à la Boat House, dont Poirot joue le jeu. Il arrive en train et un chauffeur le dépose dans la propriété. Elle voyageait à l'évidence beaucoup en train lorsqu'elle travaillait avec son mari en Irak. Ils avaient tous deux l'habitude de prendre l'Orient Express de Londres à Istanbul. Les trains apparaissent dans tellement de ses livres. Le plus connu est bien évidemment Le crime de l'Orient Express. Il y a également le train de 16h50. Dans lequel un passager regarde par sa fenêtre et voit dans un autre train une femme se faire étrangler.
À un moment, alors que les deux trains donnaient l'impression d'être immobiles, un store se releva brusquement et Mrs. McGillicuddy bénéficia d'une vue plongeante dans le compartiment de première classe brillamment éclairé qui se trouvait quasiment à portée de sa main. Elle ravala soudain un cri d'effarement. Un homme, tournant le dos à la fenêtre, s'y dressait de toute sa hauteur. Les mains autour du cou d'une femme qui lui faisait face, il l'étranglait lentement, méthodiquement, inexorablement. Les yeux de la malheureuse semblaient sur le point de jaillir de leurs orbites. Et son visage congestionné virait au violet. Bientôt, sous le regard fasciné de Miss McGillicuddy, ce fut le dénouement. Le corps de la femme se détendit et s'affaissa d'un seul coup devant l'homme qui n'avait pas relâché son étreinte. Au même instant, le train de Miss McGillicuddy ralentit à nouveau, tandis que l'autre prenait de la vitesse. Elle en vit défiler un à un les wagons, et quelques secondes plus tard, il avait disparu dans la nuit.
À titre personnel, j'ai un goût immodéré pour les histoires qui se passent dans les trains, que ce soit dans les romans ou au cinéma. C'est un cadre magique, le train, pour mettre en scène une histoire, ici une énigme. Et puis en historien, je sais que l'apogée du chemin de fer en Europe, ça n'est pas aujourd'hui, hein, c'est à la veille de la Première Guerre mondiale. En France et en Angleterre, l'année où il a circulé le plus de trains, c'est 1913. Il circulait en 1913, à peu près partout en Europe, 6 fois plus de trains qu'aujourd'hui. Hein. Donc dans l'Angleterre des années 20 et 30 et 40, il y a des trains qui vont partout. Et c'est pour ça que cette campagne anglaise, elle n'est pas isolée, elle n'est pas perdu. On va à Londres assez rapidement et la gare est un lieu de sociabilité, de rencontres quotidiens qui joue un rôle très très important. Le train également, il se passe des choses dans les trains ou s'il ne s'en passe pas, ils servent à créer du mystère et de l'inquiétude. Et puis les horaires des trains, dans certains des romans, jouent déjà un rôle qui prendront une ampleur chez des auteurs de romans policiers plus récents ou chez certains auteurs de romans policiers japonais où ça peut devenir complètement arithmétique, voire exponentiel, les horaires des trains.
En quittant Churchton, Brett Hawthorne, on se rapproche de la côte et d'une plage d'importance, elle aussi.
Nous allons passer devant deux plages très importantes. Nous allons dépasser la côte pour arriver à Torbay. Il y a la plage Elbury Cove, qui figure dans le roman ABC contre Poirot. C'est ici que Carmichael a été tué. Ce livre met en scène un tueur qui semble assassiner ses victimes selon un ordre alphabétique. La première victime étant trouvée dans une ville qui commence par un A, la seconde dans une ville qui commence par un B, et la troisième sur la plage de Churchton, qui s'appelle Elbury Cove. Il y a juste à côté un endroit du nom de Broadsands, que vous pouvez voir à travers la fenêtre. C'était sa plage favorite pour se baigner. Elle avait l'habitude de venir de Greenway jusqu'à la côte pour se baigner.
We should arrive at Churchton in about 5 minutes' time, so about 3:30. Then we arrive at Goodington, that'll be at 3:40, and then back into Paignton at 3:45. And then we leave there again at 4:15 to go back down to Kingsway, our last train today.
Et vous avez été attentif à la lecture de l'horaire du train que vient de nous faire le contrôleur pour savoir à quelle heure précisément le prochain meurtre serait commis.
Je pense qu'il était 3h45 lorsque nous sommes arrivés.
Et vous êtes inquiet qu'un meurtre se produise avant notre arrivée à Paignton?
Je ne pense pas que cela arrivera aujourd'hui. En tout cas, je ne l'espère pas. À moins que vous ayez des intentions secrètes dont je ne me douterai pas. Il y a toujours une victime dans les alentours.
Et pour une femme aussi sédentaire, attachée à ses maisons qu'Agatha Christie, sa maison de Greenway en particulier, sa maison d'été, qu'est-ce que le train peut signifier? C'est une façon de fuir, de s'enfuir, de s'échapper?
Peut-être. Je sais que le train était son moyen de transport favori lorsqu'elle devait aller à Londres pour signer des contrats ou pour rencontrer son éditeur. Mais la station de Churchton était régulièrement bondée, donc elle pouvait s'y balader de façon anonyme. Elle se faisait appeler Miss Malohan et elle avait l'habitude de s'asseoir à sa place favorite en ne parlant à personne. Elle a toujours été très réservée.
J'ai toujours adoré les trains. Il est dommage que nous n'ayons plus ces bonnes vieilles locomotives à vapeur qui semblaient tellement amicales. Je pris possession de mon compartiment de wagon-lit à Calais. Débarrassé du voyage à Douvres et de l'ennuyeuse traversée de la Manche, je m'installais confortablement dans le train de mes rêves. C'est alors que je fus exposé à l'un des premiers dangers des voyages. Avec moi, dans le compartiment, se trouvait une dame d'un certain âge, bien vêtue, apparemment habituée à se déplacer, accompagnée de nombreuses valises et cartons à chapeau. Oui, nous trimballions encore des cartons à chapeau en ce temps-là. Et elle lia conversation avec moi. Ce qui n'avait rien que de très naturel, vu que nous allions partager le compartiment qui, comme tous ceux de seconde classe, était doté de 2 couchettes. Il était dans un sens plus pratique de voyager en seconde qu'en première, car les compartiments y étaient beaucoup plus spacieux et on avait la place de bouger.
Les trains sont des lieux de stratification sociale avec leurs différentes classes. Les classes sociales ne se mélangent pas, sauf au moment peut-être d'attendre à la gare et de monter dans le train. Mais après, on est séparés et on a perdu cette poésie, au fond, de ces trains avec des décors différents selon qu'on les prend première, deuxième ou troisième classe. On y a gagné sans doute en démocratie. Mais pour le créateur, évidemment, et pour le lecteur aussi, il y avait un certain charme de ces wagons différents et de tout ce qui pouvait s'y passer. Des images les plus fortes que j'ai d'un train, mais c'est pas dans un roman, c'est dans un film, malheureusement j'ai oublié le titre, un film d'avant-guerre où un groupe de chasseurs, chasse à cours, revenant d'un congrès dans une ville du centre des États-Unis, est un peu éméché et se croit en train de chasser à cours dans un train de nuit et traverse une dizaine ou une douzaine de wagons en croyant poursuivre un cerf. C'est des scènes d'apocalypse. Mais j'ai malheureusement oublié et le metteur en scène et le titre du film.
Et après son divorce avec Archie, c'est le train que Agatha Christie a choisi pour s'éloigner, se changer les idées.
Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé. Elle est partie dans sa voiture et elle l'a abandonnée. Lorsque la police a trouvé la voiture vide, l'enquête a vraiment commencé à travers l'Angleterre. Elle se serait rendue à Harrogate par train, car c'est une façon anonyme de voyager. Vous vous asseyez, vous mettez un journal devant votre visage, et ensuite, vous disparaissez. Agatha voyageait à l'évidence en première classe. Dans l'Orient Express, elle avait toujours la meilleure place du wagon. Elle avait des problèmes pour travailler. Ce n'était pas toujours très amusant pour elle. Elle a eu pas mal de soucis dans l'Orient Express avec des punaises de lit. Elle a été très malade après un séjour à Istanbul car elle avait été piquée à plusieurs reprises, ce qui avait entraîné une infection, une montée de température et de la fièvre. Ces voyages n'étaient donc pas toujours sereins. Voici Torbay. Vous pouvez voir Torquay où elle est née, en 1890.
C'est le train qui longe le trait de côte avec les vagues qui semblent s'écraser comme ça, quasiment sur le ballast.
De grosses vagues viennent directement sur nous et il fait très froid. Vous pouvez voir beaucoup de bateaux à l'horizon, en train de tanguer. Ils naviguent vers l'Atlantique, ou bien ils effectuent un trajet de Londres à la Hollande.
La vie est comme un bateau, comme l'intérieur d'un bateau. C'est une juxtaposition de compartiments étanches. Vous émergez de l'un d'eux, verrouillez les portes et vous vous retrouvez dans un autre. Ma vie, depuis le jour où nous avons quitté Southampton, jusqu'à celui de notre retour en Angleterre, a été l'un de ces compartiments. Depuis, j'ai toujours éprouvé cette impression au sujet des voyages. Vous passez d'une vie à l'autre. Vous êtes vous-même, mais un vous-même différent. Et ce nouveau vous-même est libéré des centaines de toiles d'araignée et de filaments qui vous enferment dans le cocon de la vie domestique quotidienne. Votre vie de voyage a l'essence d'un rêve. Elle apporte son lot de nostalgie, de solitude et de soudain désir de revoir une personne aimée. Rosalind, ma mère, Madge. Vous êtes comme les Vikings ou les capitaines au long cours de l'ère élisabéthaine qui sont entrés dans le monde de l'aventure et dont la maison n'est plus la maison jusqu'au moment du retour.
We shall shortly be arriving at Goodrington Sands. Goodrington Sands is our next stop.
Agatha Christie, si elle partait aujourd'hui dans le train avec nous, dans ce train à vapeur, elle voyagerait certes en première classe, mais avec quel équipement ?
Well, I think what would surprise us today is the amount of probably luggage.
Le plus surprenant, c'est le nombre de bagages qu'elle prenait. Elle aurait emporté toute sa garde-robe. Tous ces bagages possédaient des inscriptions avec Bagdad, Istanbul, etc.
Elle avait une valise pour ses chapeaux, une pour ses robes, une pour ses manteaux de fourrure. C'était comme déménager. Vous deviez tout prendre avec vous. Vous ne pouviez pas espérer retrouver toutes vos affaires dans un pays étranger. Donc, vous preniez tout avec vous.
Les conditions dans lesquelles on voyageait à l'étranger à l'époque semblent aujourd'hui extraordinaires. Il n'y avait bien entendu aucun passeport, aucun formulaire à remplir. On achetait son billet de train, on réservait pour le wagon-lit et c'était tout. La simplicité même. En revanche, les bagages. Il faut bien une majuscule pour expliquer leur importance. J'ignore ce que le reste de la famille avait emporté, mais je me rappelle fort bien ce que ma mère avait pris avec elle. Il y avait pour commencer 3 malles à couvercle bombé. La plus grande faisait environ 1,20 m de haut et avait 2 plateaux intérieurs. Venaient ensuite des cartons à chapeau, de grandes valises carrées en cuir, 3 malles de fabrication américaine qu'on voyait souvent à cette époque dans les couloirs d'hôtels. Elles étaient volumineuses et j'imagine excessivement lourdes.
Je pense qu'elle aimait le fait que le train était très lent. L'idée de pouvoir prendre son temps, de s'habiller pour le repas, de pouvoir lire. C'est fantastique d'arriver si rapidement vers certaines destinations, mais je pense que nous avons perdu le plaisir de voyager en train. Maintenant, c'est juste devenu un moyen très pratique de se rendre au travail. Nous avons perdu le côté mystique et l'exotisme qui accompagnaient les voyages à l'étranger lorsque vous dormiez dans les trains couchettes.
Quand je rêve, ce n'est guère de Greenway ou de Winterbrook, c'est d'Ashfield, le vieux décor familier où ma vie s'est mise en place, même si le rêve est peuplé de gens d'aujourd'hui. Tous ces détails, comme ils me reviennent. Le rideau rouge éraillé par l'usure qui ouvrait sur la cuisine, les liantes en cuivre qui ornaient la grille de la cheminée du hall, le tapis turc sur les marches de l'escalier, la grande salle d'études qui avait connu des jours meilleurs avec son papier mural gaufré bleu foncé et or. L'année dernière ou celle d'avant, je suis allée voir non pas Ashfield, mais où Ashfield avait été. Je savais que je devrais y retourner tôt ou tard. Même si cela me causait de la peine, je ne pouvais faire autrement.
So we're here in front of the...
Nous sommes ici devant la plaque bleue qui a été placée par le conseil municipal de Torbay. Il y est inscrit « Pour commémorer le site d'Ashfield, lieu de naissance et première résidence d'Agatha Christie, Mary Miller, écrivain de romans et de pièces de théâtre, 1890-1976. » C'est tout ce qu'il reste.
C'était Une Murder Party de campagne, un documentaire perpétré par Martin Kénéen et Julie Béressy, avec la coupable complicité de Laurent Groux à la prise de son et d'Olivier Dupré au mixage. Texte dit par Sophie Barjac et Philippe Lebeau. Doublage, Émilie Blond-Metzinger, Romain Lemire, Christian Nepon et Olivier Pellerin. Bref. Une vilaine association de malfaiteurs patiemment préméditée par les soins acharnés de Lady Meryl Moneghetti, de Miss Cecilia Delporte et du Major Guillaume Couture. Merci à Belinda Smith de la National Trust.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 août 2013. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.